Et puis, je vous ai lancé un petit défi. Je vous ai dit, écoutez, pour ceux qui étaient là, essayez de chercher plus l'Esprit de Dieu dans la semaine. Est-ce que ça a été fait? Oui? Il y a Sandy qui est très... Ouais, ça a été fait. Alors, est-ce que vous avez senti une différence? Non? Ouais? Bon, on va continuer ce matin parce que je vois que c'est pas assez. Vous voyez, il faut toujours répéter, il faut toujours en dire plus. Parce que pour se mettre en action, c'est un peu plus dur. Mais il faut chercher le Saint-Esprit davantage. Alors, on va prendre Romains 3, versets 23-24. On va remettre quelques bases. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous savons que tous ont péché et sont privés de quoi ? Le verset clair, nous sommes privés, nous avons été privés pour un temps de la gloire de Dieu. Tous ont péché et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Christ, donc la foi en Jésus-Christ. Donc pour être justifié, la Bible nous enseigne deux choses. La justification, pour être justifié, pour être considéré comme juste aux yeux de Dieu, il y a deux moyens dont la Bible nous parle. Le premier, c'est être justifié par la loi. Et le deuxième, c'est être justifié par la grâce. Il y a deux moyens pour être justifié. C'est soit par la loi, soit par la grâce. Est-ce que vous me suivez toujours? Alors par la loi, ça va consister à suivre plusieurs règles. Et j'insiste sur le fait que c'est suivre et respecter parfaitement toute une série de règles en tout temps pour être reconnu comme juste devant Dieu. Ce n'est pas juste une période de sa vie, ce n'est pas juste le temps de vouloir plaire à Dieu, c'est en tout temps. Si tu désires vivre par la loi, tu dois suivre la loi toute ta vie, à chaque moment, et ne pas t'en détourner. Ce n'est pas facile, hein? C'est impossible. Alors l'évangile est simple. Là, ce que je viens de vous dire, ça paraît compliqué. La chose est que l'évangile est simple. Et parfois, on aime bien le compliquer. Ça va? Mais l'évangile est très simple. La loi ou la grâce. Mais la loi et la grâce ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et le premier point que j'aimerais soulever suite à plusieurs semaines qu'on a vécues ensemble, c'est que parfois, nous, chrétiens, on essaie de vivre un peu de la loi et on essaie de vivre un peu de la grâce. Et on essaie de faire notre petit mélange qui nous fait du bien pour se sentir agréable aux yeux de Dieu. Donc on prend quelques règles qu'on trouve correctes à suivre dans la Bible, on les suit. Et puis ensuite, quand ça ne va pas, Jésus, ta grâce, tu me pardonnes. Et tu es amour. Et souvent, on vit comme ça. Ça va? Vous me suivez? Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous vous reconnaissez? Moi, je me reconnais. Hein, faut pas être timide. Hein. Moi, je me reconnais amplement. Alors, c'est pour ça que Jésus a dit une chose incroyable à Nicodème. Vous voyez qui est Nicodème dans la Bible? Il va lui dire, il est nécessaire que tu naisses de nouveau. Il parle à un homme religieux, à un pharisien, voilà, quelqu'un qui connaît la loi, qui connaît ses règles, et lui dit, mais c'est incroyable ce que tu fais, et toi tu parles au nom du Père, c'est pas possible, et j'aimerais savoir ce qu'il faut faire. Et Jésus le regarde et lui dit, il est nécessaire que tu naisses de nouveau. Et si vous lisez ce passage, on va pas le lire ce matin parce qu'on a beaucoup de versets, Sandy en est témoin, on va lire beaucoup, et il lui dit, eh bien, il faut que tu naisses d'esprit. Parce que si tu ne nais d'esprit, eh bien, en fait, il ne se passera rien pour toi. Tu vas continuer comme ça, il n'y a pas d'espoir pour toi. C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Il faut que tu naisses d'esprit pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Et plus loin, il va lui dire, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Il y a la notion de voir le royaume de Dieu et la notion d'entrer dans le royaume de Dieu. Et parfois, au moment où on accepte Jésus, où on comprend qu'on est pécheur, eh bien, je le dis toujours, allez dire à votre voisin qui est pécheur. Allez voir votre voisin et dites-lui, écoute, t'es pécheur. Il va te regarder, il va dire, t'es gentil, mais c'est quoi le péché? Le péché, c'est une révélation. C'est que le Saint-Esprit commence à te convaincre et il commence à te dire ce que t'es en train de faire n'est pas droit devant Dieu. Et il commence à convaincre ton cœur et on appelle ça la conviction du péché. Et ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il ne te condamne pas, mais il te dit, regarde, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Et si tu veux suivre Dieu, c'est comme ça qu'il faut être. Et je veux t'aider. Vous me suivez toujours ? Alors, voir le royaume de Dieu ou entrer dans le royaume de Dieu. Et la première étape, c'est de dire, Jésus, je reconnais maintenant que je suis pécheur, mes yeux s'ouvrent. Et la Bible nous parle de ce voile qui tombe. On vit notre vie, voilà, on a nos objectifs, nos ambitions, et puis on a un voile devant les yeux. Et lorsque le Saint-Esprit est avec nous, parce qu'il est avec toi avant même que tu aies accepté Jésus, il est déjà là, il est déjà en train d'essayer de te toucher, il est déjà en train d'essayer de mettre les situations et les circonstances en ta faveur pour que tu puisses reconnaître Christ. Et puis, il commence à te toucher et il te dit, voilà, rends-toi compte, il y en a un qui est venu pour te sauver, c'est Jésus. Et j'aimerais témoigner de lui dans ton cœur. Et là, tu es là et la première chose que tu fais, c'est que tu as un choix. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Et il te dit, est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu n'acceptes pas ? Mais sache qu'il y a la mort ou la vie, choisis la vie. Que ton oui soit oui ou que ton non soit non. Mais si tu choisis la vie, tu vas suivre la vie. Est-ce que vous êtes avec moi ? Et là, vous avez le Saint-Esprit qui commence à travailler. Moi, j'aime le témoignage de ma femme parce qu'elle dit « j'avais pas encore accepté Jésus et je commençais à avoir des convictions fortes que faire ça, ça plaisait pas à Dieu. Et d'un coup, j'ai commencé à avoir envie de plaire à Dieu. » C'est quand même fou. On lui a rien demandé, puis elle veut plaire à Dieu. Peut-être parce qu'elle m'avait rencontré. Non, elle m'avait pas encore rencontré. Donc, il y a ce Saint-Esprit qui vient et qui frappe. On ne sait pas qui il est. On ne le connaît pas. On ne comprend rien à ce qui nous arrive. Mais on perd une paix. On n'était pas vraiment forcément dans une paix exceptionnelle. Mais là, on est vraiment mal. Et on se rend compte qu'il y a un problème. Et Nicodème, il va dire à Nicodème, il faut que tu naisses d'esprit pour pouvoir voir et pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et le fait de naître d'eau, ça veut dire je m'associe à Christ et je commence à vivre comme qui ? Comme ? J'ai pas entendu. Comme Christ. Ça veut dire je m'associe à lui, je deviens comme lui, je deviens un petit Christ et je vis maintenant comme lui. Ça veut dire qu'il y a une question de reconnaître et il y a une question maintenant de vivre de la même manière pour pouvoir entrer dans ce royaume-là. Est-ce que ça vous intéresse l'objectif royaume de Dieu ? Moi, ça m'intéresse. Alors, on va aller plus loin. Il faut que tu naisses de nouveau, que tu naisses d'esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Ça n'a pas l'air de faire grand-chose sur vous. Ouais, je connais. Alléluia ! Samuel, il est embrasé, vous voyez ses couleurs ? Il a tellement brûlé cette semaine que il est rouge d'onction. Alors, vous voyez, il écrit quoi ? Il écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Vous n'êtes pas encore encouragés. Moi, quand je lis ça, quand je commence à lire ça, ça commence à bouillonner vraiment. Je sens que le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu te rends compte que tu es le temple de Dieu ? Moi, je dis, écoute, je sais pas, cette semaine, c'était un peu dur. Il me dit, est-ce que tu te rends compte que tu es le temple de Dieu ? Moi, je dis, non, mais tu comprends, cette semaine, je n'ai pas assez passé de temps avec toi. Il me dit, est-ce que tu te rends compte que tu es le temple de Dieu ? Parce que lui, il change pas. Parce que sa parole, elle change pas. Et que l'Esprit de Dieu habite où ça ? En moi. Alors souvent les chrétiens, on aime bien dire, si Jésus était encore là avec nous aujourd'hui, ce serait vraiment différent. On aime bien dire ça. Hein. Les gens seraient touchés, ils verraient le miracle dans la rue. Ce serait plus Samuel, mais Jésus qui marcherait rue du Faubourg avec Thierry. Vous voyez, non, ce serait Jésus. Et Jésus mettrait la pleine puissance et puis il guérirait partout, il toucherait les gens, il les délivrerait. Et on aime bien penser ça, dire, mais attends, moi je t'ai pas vu Jésus. Mais si tu étais avec moi, il y aurait vraiment une différence. Mais ce que ce verset est en train de nous dire, il est en train de nous dire que l'Esprit de Christ habite en moi. Il est en train de dire que autant Jésus était là physiquement avec les apôtres, autant l'Esprit de Christ habite maintenant en moi. Mais ça, c'est puissant. Parce que quand Jésus montait sur la montagne, il se retrouvait seul. Moi, je vais dormir, Jésus est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Quand je suis au travail, le Saint-Esprit est avec moi. Le problème, c'est que trop souvent, on vit comme si le Saint-Esprit n'était pas là. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est nous-mêmes. Lui, il nous dit, j'habite en toi, tu es maintenant le temple, je suis en toi, je suis en toi, je suis en toi. Et toi, tu vas au boulot et tu le laisses dans ta valise. Et ça, c'est notre façon de vivre. Oh Seigneur, change nos cœurs parce que là, je sens qu'on a besoin. Alors le temple, il était fait d'une certaine manière. Vous aviez le parvis extérieur, ce qui représente quoi ? Il représente notre corps. Vous aviez le lieu saint et vous aviez le lieu très saint. Et nous sommes maintenant, nous, le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que mon corps entier appartient au Saint-Esprit. Le lieu saint, c'est mon âme, le siège de ma volonté, de mes émotions. Et c'est là où il faut laisser le Saint-Esprit diriger. Et c'est le premier endroit où Satan va attaquer. C'est le premier endroit où il va essayer de te voler. Parce que lorsque tu reçois Jésus-Christ, la Bible nous dit, et Élise nous l'a bien fait remarquer, que le sceau de l'Esprit est sur toi. Ça veut dire que tu es maintenant enfant de Dieu, que tu lui appartiens. À partir de là, Christ vient vivre en toi. Et si tu le laisses vivre en toi, eh bien les fruits de l'Esprit commencent à se manifester. L'amour, la paix, la joie, toutes ces choses-là commencent à se manifester. Et Satan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de voler ça. Lui, il vient et il commence à semer des pensées. Il commence à semer toutes sortes de dépressions, de mélancolies, tout ce que vous voulez. Tout ça pour que vous commenciez à plus en croire en ce verset-là que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il commence à toucher à ta volonté. Et la volonté, c'est ta volonté de suivre Christ. Et quand il a touché et entamé ta volonté, tu n'as plus envie de le suivre. Il y a des semaines, c'est pas facile de suivre Christ, hein. Mais la Bible, on sait que la parole de Dieu, ce n'est pas une succession de règles. On l'a dit, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas une succession d'échecs et de dire « je dois faire ça » et ça se résume à « je peux faire ça, je ne peux pas faire ça, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça ». La Bible, ça se résume au fait que le Saint-Esprit vient vivre en moi et il y a une nouvelle loi qui vient toucher mon cœur. Et c'est la loi de l'Esprit de Dieu. Celle qui vient et qui commence à chasser toutes les mauvaises choses qu'il y a dans mon âme. Qui commence à pousser hors de moi-même ce qui n'appartient pas à Christ. Parce que c'est sa maison maintenant. Et il désire que sa maison soit saine, qu'elle soit pure. Alors comment garder notre temple pur ? C'est ça la question maintenant. Comment garder pur notre temple ? Et moi j'ai un verset, et j'appelle ça le verset qui me douche. Le verset qui me lave. Et on va le lire maintenant. 1 Jean 1, verset 7. À 9, s'il vous plaît. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Ça, c'est la repentance. Si tu penses que tu es bien, que tu es super, tu as ta petite religion, tu as ton petit truc, tu n'as pas compris en fait. Parce que là, il est clairement dit, en fait, oui, tu es pécheur. Et il faut que tu le reconnaisses. C'est ce qu'on appelle la repentance. Je reconnais que je suis pécheur, Saint-Esprit, viens me changer. J'accepte que tu me changes. C'est ça la repentance. Si nous confessons nos péchés, verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bon, je répète parce que vous n'êtes pas dedans ce matin. Oh Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut que tu prennes ta douche. Il faut que tu te laves. Il faut que tu frottes. Il faut prendre le gant de toilette spirituel. Et c'est ce verset-là. Parce que frotter avec les mains, ça décrase pas bien. Hein. Tous ceux qui font ça, gant de toilette, les gars. Gant de toilette. Gant de toilette. Et il faut frotter là où ça pue le plus. Là où ça fait le plus mal, là où on est à l'aise dans nos habitudes. Mais ça commence une odeur. Ah. Eh, franchement, se laver. Tu pourrais rester, hein ? À un moment donné, tu sens même plus que tu sens. Tu t'habitues. Et là, quand quelqu'un vient te dire, écoute, il faudrait peut-être que tu prennes une douche. Là, oh non, 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 tu te vexes, tu es susceptible. Et c'est ce qu'on fait avec le Seigneur. Il vient, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire qu'il est fidèle. Il est fidèle pour nous montrer là où ça pue. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène à être comme notre modèle. C'est qui? C'est Christ. Et Christ, c'est parfait. Donc le Saint-Esprit est fidèle. Il vient dire, Paul, petite douche, ce serait bien. Et Paul, il a un choix. Soit il dit, non, mais attends, je suis un bon chrétien, je vais à l'église le dimanche, je suis ancien dans l'église, je fais la louange. Il pourrait réagir comme ça. Non, mais vous comprenez, pas moi, quoi. Et le Saint-Esprit dit, Paul, change un petit peu. Je prends Paul, ça pourrait être moi, n'importe qui, hein, c'est un exemple. Et là, ça va toucher à ma volonté. Est-ce que je veux changer vraiment? Saint-Esprit, lui, parle. Quand Dieu parle, le Saint-Esprit te parle, il te révèle, en fait. Et maintenant, il te laisse le choix. Et il dit, est-ce que tu veux changer? Je suis prêt à t'aider, mais est-ce que tu veux changer ta volonté? Ça va? Il faut que tu prennes ta douche. Quand on prend notre douche, vous savez, moi, je suis dans le bâtiment, en menuiserie, donc je suis tout le temps plein de poussière. Donc, je rentre le soir. Souvent, Chanel est tellement heureuse que je viens de rentrer. Elle veut tout de suite que je mange, que je m'assoie, que je passe un moment. Et je dis, non, 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 il faut que je prenne ma douche. D'abord la douche. Après, je me pose. Parce que là, tu comprends, je pue, je suis sale. Je vais salir toute la maison. Il faut que je me douche. Mais quand je prends ma douche, je suis en train de me laver. Je ne suis pas en train de me préoccuper de la poussière, où elle s'en va. Je ne suis pas en train de me dire, pauvre poussière, où vas-tu? Où es-tu? Pauvre boue, où vas-tu? Non, je me lave, je suis propre. Le problème, c'est que parfois, on se lave. Oh, ma petite boue, où es-tu? Tu me manques, mon petit péché. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un problème. Si tu te laves, tu te laves. La Bible nous dit, reviens pas à ton ancienne vie. Reviens pas à ton ancien péché. Parce que ça, c'est Satan qui vient, qui te condamne à nouveau. Qui dit, ah non, tu ne seras pas capable d'abandonner ça. T'es propre maintenant, mais tu vas vite retourner dans ta boue. Et ça, c'est Satan. Et c'est là où le Saint-Esprit commence à œuvrer dans ton âme. Et il te dit, non, tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis avec toi. Tu vas changer. Tu vas être une personne justifiée. Ça marche? Alors, Romains 8, verset 1 à 2 nous dit quoi? Encore une déclaration forte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont quoi? En Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si tu suis certaines règles très chrétiennes, si tu suis encore quelques lois bibliques, abandonne-les tout de suite. Parce que moi, je lis clairement, en effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi qu'il y ait une relation? Ça veut dire que la loi telle qu'elle est scripturaire, elle t'amène où? Elle t'amène à la mort parce qu'elle révèle le péché. Tandis que la loi de l'esprit, elle fait quoi? Elle te libère. Ça veut dire que si tu vis une vie en demi-teinte, je prends un petit peu de la loi, je prends un petit peu de l'esprit et je mélange tout ça, et ben en fait, tu ne vois pas la gloire de Dieu et tu deviens un chrétien frustré. Parce que tu ne vis pas pleinement. Et ça, ça nous concerne tous. La loi et la grâce ne peuvent pas cohabiter. Si tu cherches à être justifié par la loi, eh ben tu ne peux pas y arriver au moyen de la grâce. C'est impossible. C'est une incohérence. Et si tu cherches à devenir juste par la grâce, eh ben tu n'y arriveras pas au moyen de la loi. C'est aussi une incohérence. Oh Seigneur. Éphésiens 2, verset 8, on confirme tout ce que je dis, on confirme par la parole, d'accord? Ce matin, on s'appuie. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tu peux le laisser. Alors nous, la foi chrétienne, et la seule à proposer ça. Il n'y a aucune contrepartie. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est tu vas être justifié uniquement sur la base de ta foi en Christ. Et aucunement par ce que tu vas faire. Aucunement, jamais. C'est la foi chrétienne est unique pour ça. Parce qu'elle ne te demande rien. Elle ne te demande strictement rien. Elle te demande juste de croire en Jésus, Fils de Dieu. Et cette foi-là, elle commence à susciter des choses en toi. Amen. Alors, on va lire encore plus loin. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais quoi ? Vous êtes non sous. Alors maintenant, tu dis en ton cœur, maintenant, tu déposes, si tu es un vieux chrétien, mature, tout ce que tu veux, peu importe d'où tu viens, tu dis tout ce qui reste en moi de la loi, je le dépose. Tout ce qui reste en moi de religieux, je le dépose. Parce que ça ne sert à rien. Strictement à rien. Et que le péché, si je garde quelque chose de religieux, si je garde quelque chose qui vient de la loi, eh bien, Satan a maintenant un pouvoir dans mon âme. Et il va venir me chercher des noises dans mon lieu saint. Il va venir frapper à la porte de mon lieu saint et va me dire, écoute, tu crois en ça ? Ça veut dire que tu es d'accord avec telle loi ? Eh bien, ça veut dire que je peux te juger. Et ça veut dire que je peux juger chacun de tes faits. Et quoi qu'il arrive, tu es pécheur. Donc, c'est moi qui aurai le dernier mot. C'est ça que ça dit. Que quand Satan vient frapper à ta porte et que tu es un homme, une femme qui vit selon l'esprit, qui n'est pas parfait, qui fait des erreurs, mais tu vis vraiment selon l'esprit, tu aimes le Saint-Esprit, tu ne le laisses pas de côté, tu le laisses travailler en toi, tu as la volonté qui te change. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Satan, il vient frapper et il dit, hé, tu vois ce que tu as fait là ? Et tu lui dis, ouais, c'est vrai. Tu lui réponds, tu lui fais face, tu le regardes dans les yeux, tu n'as pas honte. Tu dis, c'est vrai, je ne suis pas parfait. Et tu sais ce que ça veut dire, ça ? Vous lui dites à Satan, tu sais ce que ça veut dire ? C'est qu'aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Et encore aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de ce sauveur-là. Et il s'appelle Christ. Et je lui ai demandé de vivre en moi. Et lui, il va me transformer. Et je marche en étant... Il marche devant moi et je veux être comme lui. Il est mon modèle. Vous voyez la différence entre la loi et la grâce ? Et c'est l'esprit qui doit travailler en nous. Oh. Alors Romains 8, verset 14, on va encore confirmer. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi ? Sont fils de Dieu. Pour être considéré comme fils de Dieu, il est nécessaire d'être conduit par l'Esprit de Dieu. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tu peux être un fervent chrétien, mais tu n'es pas fils de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Christ l'a dit, il l'a dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'esprit. Tu peux me parler de toutes tes doctrines, mais tu as besoin de naître d'esprit. Tu as besoin d'être une nouvelle personne. Tu as besoin d'être une nouvelle créature, parce que ce qui est né de la chair est chair, et tu es chair. Et maintenant, je veux que tu réveilles l'esprit qui est en toi. Je veux que le voile du lieu très saint tombe. Je veux avoir une relation réelle avec toi. Et pour ça, il faut que tu naisses d'esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'esprit, on a parlé de cet esprit qui est avec nous et on parle maintenant de cet esprit qui nous conduit. Galates 5, verset 18. Allons plus loin. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous quoi ? Donc on confirme à nouveau. Aucune loi ne fera plaisir à notre cher Saint-Esprit. Alors on va fermer les yeux 30 secondes. Seigneur, je te prie, maintenant, Seigneur, tu es venu, tu nous as libérés du péché. L'évangile est simple. On était pécheurs, on était perdus et on t'a reconnu, Seigneur. Et Seigneur, maintenant, je te prie pour que dans cette pièce, aucune personne ne sorte d'ici sans que le Saint-Esprit soit le guide, sans que le Saint-Esprit ne règne dans sa vie. Parce que c'est la question de mort ou de vie. On accepte Jésus, on est sauvé, mais ensuite il faut marcher selon l'Esprit. Nous voulons être des fils et des filles du Dieu vivant. Amen. Galates 5, 18 nous dit, maintenant il faut que tu abandonnes. Et souvent on entend, vous les chrétiens, vous avez foi en Dieu parce que votre Dieu est une béquille. Et c'est vrai, pour beaucoup Dieu est une béquille. Pour beaucoup, la religion est une béquille. Pourquoi ? Parce que tu te dis chrétien, je veux vivre avec toi, Jésus, mais tu restes dans certains préceptes. Et en gros, tu es en train de dire au Saint-Esprit, écoute Saint-Esprit, je ne te fais pas assez confiance pour m'abandonner totalement, donc je vais garder la main quelque part là, sur ce que je sais savoir, je crois savoir, et puis je vais rester là. C'est comme dans l'escalade, hein, on a notre cher Christophe qui est un grand alpiniste. Il le sait. À un moment donné, on est allé ensemble et il m'a dit, écoute Alex, à un moment donné, tu vas avoir mal à tes bras et il faut y aller parce que sinon, tu vas tomber. Ben là, c'est la même chose. C'est qu'on est là, on veut avancer dans la vie chrétienne, mais on garde certaines prises. On dit, Saint-Esprit, attends, c'est beaucoup trop pour moi, je vois rien devant moi, c'est par la foi, on voit rien. Et puis moi, j'ai besoin de comprendre, hein, donc je garde ma doctrine là, je garde ma théologie là, je garde mon petit péché là. Et puis tu comprends, ça je connais, je sais ce que c'est, donc je ne vais pas m'abandonner totalement. Et ça devient quoi? Ça devient ta béquille dans ta vie chrétienne. Ça, c'est une béquille. C'est vraiment une béquille. Parce que tu as besoin d'un support pour avancer. Alors que le Saint-Esprit te dit, abandonne totalement. Abandonne tout. Abandonne ton corps, abandonne tes pensées, abandonne tout. C'est le flou. La Bible dit, celui qui est conduit par l'Esprit, il y a un vent, c'est comme un vent. On ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient. Mais c'est comme ce vent qui souffle. C'est-à-dire que tu ne sais pas où tu vas aller. Tu ne sais même pas comment. Mais le Saint-Esprit dit, je sais tout ce qu'il y a de bon à savoir sur ta vie. J'ai un projet, j'ai une vision pour toi, mais il faut que tu abandonnes. Et ça nécessite beaucoup de volonté. Là-haut, il faut que ça tourne rond. Parce que vouloir croire en quelque chose qu'on ne voit pas, c'est dur. Déjà, peut-être que sur cette terre, on ne verra jamais Jésus. On ne verra peut-être jamais Dieu, sauf s'il revient. Et là, il faut croire en un truc qui est en nous, qui nous conduit où on ne sait pas aller. On ne connaît pas la destination. C'est un truc de dingue. Quand vous résumez ça, c'est un truc de fou. Tu ne sais pas où tu vas aller. Alléluia. Et parfois, tu es là et tu dis, Dieu m'a dit et le Saint-Esprit m'a parlé. Mais en réalité, c'est toutes tes pensées et tu fais les mauvais choix. Parce que dans l'abandon, laisse-moi te dire que quand le Saint-Esprit te pousse, moi, chaque fois qu'il m'a poussé, je ne savais pas où j'allais aller. Mais qu'est-ce qui est venu dans mon cœur? C'est une paix insondable. C'était puissant. J'ai commencé à bouillonner. Moi, ça a commencé ici. La puissance du Saint-Esprit, elle est tombée. Et il a commencé à me faire faire des choix de fou. Ma mère, elle tremblait. Mon père, il se cachait. Ma femme, elle se demandait quoi? Et puis, on faisait des choix. Et puis, il n'y avait rien devant nous pour nous rassurer. Mais aucune prise. Et j'ai dit, Saint-Esprit, je décide de croire en toi. Et là, j'ai commencé à voir quoi? À voir la gloire de Dieu dans ma vie. Mais s'il n'y a pas la gloire de Dieu dans ta vie, laisse-moi te dire que tu as encore des prises. Parce que le Saint-Esprit, c'est quoi son but? C'est de glorifier Dieu, glorifier le Fils, et de glorifier qui? Le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit vit en toi. La Bible nous dit que nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Christ a dit quoi? A dit, je m'en vais, et je vais vous envoyer quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Et il sera sur vous comme il a été avec moi. Et parce qu'il sera sur vous, avec vous, en vous, vous ferez des plus grandes choses que moi. Elle est où l'Église qui fait des plus grandes choses que Jésus? Il est où l'homme et la femme de Dieu qui font des choses exceptionnelles pour la gloire de Dieu? Moi je veux, vous savez, en préparant cette prédication, ça m'a réveillé. Ça m'a enflammé. J'ai dit, Seigneur, je m'endors. Je ne veux pas m'endormir. Je ne vais pas m'endormir, Seigneur. Je ne vais pas m'endormir parce que j'ai besoin de toi. Toute ma connaissance, ça va pour un temps, mais j'ai besoin de la puissance et ton onction. Si je n'ai pas ça, je ne suis rien. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez le même désir que moi? Et vous savez, on était là mercredi soir, on a fait un temps, on a prié pour le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit se manifeste de manière différente. C'était vraiment la douceur mercredi. C'était cool, il nous a apaisés, il y avait sa paix. Et puis, moi j'avais vraiment dans mon cœur, c'était ça. C'est parfois tu reçois un dépôt du Saint-Esprit et tu vis pendant une semaine, un mois, trois mois, deux ans, quatre ans, cinq ans avec ce même dépôt. Et en fait c'est faux, parce qu'à un moment donné tu commences à vider le réservoir que le Saint-Esprit a rempli en toi. Tu vides le lieu saint, tu vides le lieu saint et tu commences à vivre par le lieu, tu vides le lieu très saint et tu vis par le lieu saint. Et à un moment donné tu continues par la chair, c'est ce dont a parlé papa là, il y a trois semaines. C'est tu commences à vivre par la chair et tu t'en rends pas compte parce que tu te bases sur ce que tu as vécu il y a cinq ans. Et Saint-Esprit dit, mais je suis le Dieu du renouveau. Je veux te renouveler constamment, je veux te remplir à nouveau, je veux que tu aies des nouvelles pensées, que tu sois restauré. Commence pas à vivre avec un vieux dépôt, ce qui est passé est passé. Et moi, en préparant cette prédication, j'ai dit, Seigneur, j'abandonne le vieux dépôt, je veux le nouveau maintenant. Ça suffit, on veut le feu de Dieu. On est une église quoi? Une église charismatique, on croit en la puissance de l'évangile. On croit en la puissance de la foi qui agit en nous. On croit en Jésus ressuscité. Ce même Jésus qui a été conçu par le Saint-Esprit. Il est né du Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été couvert par le Saint-Esprit. Et il est ressuscité par le Saint-Esprit. Toute sa vie est basée sur le Saint-Esprit. Et nous, on veut vivre juste avec Christ. Oh, Jésus, Christ, mon modèle. Non, Christ, mon modèle, mais la puissance du Saint-Esprit en moi qui m'amène à vivre comme il a vécu, qui m'amène à opérer la gloire de Dieu. Et vous avez Lazare en Jean 3, on va le lancer. Jean 3, il est où ? Oh là là, Jean 11, versets 40 à 43. Et vous allez voir cette histoire, vous la connaissez. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi ? Tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et Lazare est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre seul objectif est de manifester la gloire de Dieu. On est sauvé, mais on est appelé à manifester sa gloire. Dieu fait tout pour sa gloire, par sa gloire. Et on est quoi ? On est héritier de Christ. C'est-à-dire que la gloire de Christ, on la partage. Et moi, je me suis posé cette question. Quand est-ce que la dernière fois j'ai vu ta gloire, Seigneur ? Et j'ai pu commencer une semaine, deux semaines, trois semaines. Oui, je suis chrétien. Oui, il y a la faveur de Dieu. Oui, il y a la bénédiction. Mais ce n'est pas la bénédiction que je veux, c'est la gloire. Parce que je vais être participant avec Christ. Et ça enflamme nos cœurs. Moi, ça m'ébouillante. Je suis désolé ce matin, mais c'est le feu. C'est le feu. Alors, on va balayer quelques mensonges que Satan vient mettre. On va lire un verset, Galates 5, verset 7. Les chairs sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point de quoi ? Du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, il y a beaucoup de mensonges qui tournent autour de ça. Je vous ai parlé de cette âme qui est torturée, où Satan vient et dans ce lieu saint. Et lui, il vient te rappeler toutes ces choses. Tu peux remettre verset 20. Il vient et il commence à te dire, écoute mon gars, ça t'a touché, ça t'a touché, ça t'a touché. Et il commence à t'accuser, il t'accuse. Il y a une autre solution. La deuxième solution, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Tu lis tout ça et tu dis, oh, ça moi j'ai pas touché. Je suis saint. Et ben ça, c'est déjà pas bon. On l'a lu tout à l'heure. Est-ce que c'est juste que c'est pas bon ? Parce qu'il dit que tous sont pécheurs. S'il n'y a pas ton petit péché mignon qui est écrit là-dessus, et ben en fait, t'en as un autre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, Satan, il vient et puis, bam, il commence. Si vous êtes sous la loi, vous vous sentez accablé. Et là, vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Tu commences à te mesurer à ces choses-là. Et si tu commences à te mesurer en tant que chrétien à ces choses-là, et tu dis, Seigneur, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça, faut pas... En fait, tu rentres dans le jeu du malin. Tu commences à rentrer dans son jeu. Et tu es en train de te mesurer à des choses basses. Tu es en train de te mesurer au péché. Tu es en train de te mesurer à quelque chose que Satan a brisé à la croix. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Verset 22. Donc tu ne te mesures pas au péché que tu n'as pas dans ta vie ou tu ne te mesures pas au péché que tu as dans ta vie. Il ne faut pas se mesurer au péché, ça n'a aucun intérêt pour toi. Mais qu'est-ce que tu commences à faire ? Qu'est-ce que tu commences à faire ? Tu commences à te mesurer au fruit de l'esprit. Et tu dis, Seigneur, ça c'est les fruits qui me sont accordés. Et tu dis, Seigneur, eh ben, je constate, je suis honnête avec toi-même, je constate que j'ai un gros problème avec l'amour. Tu dis, aime ton prochain, tu dis, eh ben, vous connaissez la Bible. Et tu commences à constater ça et tu dis, Saint-Esprit, viens maintenant. Viens transformer mon cœur. Viens transformer mes pensées. Viens me renouveler. Parce que si tu ne demandes pas ça, tu vas commencer à te mesurer à ton péché et tu vas où ? Vous n'êtes pas avec moi. Tu vas où? L'adège plus fort. À la condamnation, à l'enfer. Mais nous, on veut se mesurer à quoi? Aux fruits de notre Jésus-Christ. Parce que c'est les fruits de Christ qui doivent vivre en nous. Et dire, Jésus, c'est à toi que je veux me mesurer. Je reconnais, voilà, ça. Tu me pardonnes. Je vais changer. Il faut que ma volonté soit en marche. Et je choisis, Saint-Esprit, maintenant, que tu me transformes. Mais ça va te coûter. C'est comme Paul, hein, quand je lui ai dit qu'il sentait, il n'a pas aimé. Il a failli fuir. Il a dit, si c'est comme ça, je prends ma valoche, je m'en vais. Non, c'est pas comme ça qu'il va réagir. Il va dire, c'est vrai, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas parfait. Viens transformer mon cœur. Et ça, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage de dire, Saint-Esprit, viens transformer tous mes raisonnements. Tout ce que je pensais être acquis, toute mon éducation chrétienne, tout ce que je pense être juste, viens le transformer. Ça va te coûter, hein? Mais qu'est-ce que tu vas voir après? Tu vas t'approcher de ton modèle et tu vas commencer à goûter à la gloire. La gloire de Dieu. Alléluia. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera sur vous. Il sera avec vous. Et vous allez faire des plus grandes choses que moi j'ai faites. Sergio, les plus grandes choses. Alors moi, je vous pose cette question. Ça fait quelques semaines que le Seigneur nous parle. Alors qu'est-ce qu'on va faire, nous, Église, avec tout ça? Regardez, je vous pose la question. Qui a fait l'effort cette semaine de chercher plus l'Esprit? 3 personnes. Le problème, c'est que si vous restez concentré sur votre petite vie, je suis clair avec vous, on ne vivra rien ensemble. Parce qu'il y a moi, le Saint-Esprit qui vit en moi, qui me transforme pour être à l'image de Christ. Mais Christ, qu'est-ce qu'il va venir chercher? Il ne va pas venir me chercher moi, il va venir chercher l'Église complète. Et il va chercher quelle Église? L'Église sans tache, sans rides, qui va refléter quoi? La gloire du Seigneur. Ça veut dire qu'il s'attend à quelque chose entre nous. Il s'attend à ce que la gloire se manifeste dans chacune de nos vies. Mais il s'attend à ce que sa gloire se manifeste en tant que communauté. En disant, Seigneur, on est là ce matin, on va toucher à ta gloire. On va se battre. Ouais, je fais 40 heures par semaine, mais c'est toi ma priorité. Ouais, je suis fatigué, mais c'est toi ma priorité. Ouais, j'ai eu un 4e enfant, je suis père de famille excessivement nombreuse, mais c'est toi la priorité. Et vous savez qu'il m'a coupé la chic, hein. Chanel, elle devait accoucher avant. Hein. Ouais, je t'en veux pas, Mathieu. Mais c'est important. C'est d'abord le Saint-Esprit. Moi, je me suis mis à mon compte récemment et ça me prend tout mon temps, mais tout mon temps, mais tout mon temps, mais tout mon temps. Et là, j'ai dit non. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est toi ma priorité. C'est pas poser 3 planches de bois, c'est pas faire un meuble. Ça m'intéresse pas. C'est toi le feu qui brûle en moi. C'est pas la passion de faire quelque chose qui me fait du bien. C'est Jésus. Et en tant qu'Église, quand on va avoir cette soif ensemble, qu'on va dire, ensemble maintenant, on veut toucher à la gloire de Dieu, on va commencer à révolutionner ce quartier. Ce ne sera pas juste Thierry et Samuel dans la rue à deux. Non, ça va être l'Église ensemble qui prie, qui appelle la gloire de Dieu, qui s'attend à la puissance de la résurrection comme Lazare. On va voir des résurrections dans les vies, des couples qui étaient au bord du divorce être complètement restaurés, des familles transformées, des malades guéris, des dépressifs complètement guéris, des schizophrènes qui sont complètement liés, muselés par tous les diagnostics médicaux être guéris. C'est ça qu'on s'entend à manifester la gloire de Dieu. Sinon, je suis bien dans mon jardin avec ma femme et à siroter mon petit spritz. Hein? C'est important. On parlera après, Amina. J'ai pas fini. Le baptême. Tu veux savoir c'est quoi le baptême? Alors, on va parler de ça après ensemble. Mais vous voyez, quand Christ nous dit il faut que vous soyez nés d'eau, c'est cette notion de s'associer à Christ, de vivre comme Christ. Ça veut dire je vais vivre comme lui. Je vais dire, écoute, je suis peut-être pas capable, mais Jésus, je suis prêt à vivre comme toi. Je suis prêt à aimer comme toi. Et je décide par la foi, je ne sais pas si je vais être capable. Et là, le Saint-Esprit commence à te pousser et à te renouveler. Et là, la gloire, elle n'est plus à toi, mais elle est au Saint-Esprit. Elle est à Christ. Parce que ce n'est plus toi qui as réussi. Ah, je suis bon, j'ai été super bon aujourd'hui. Lui, je l'ai aidé. Celle-là, je l'ai aidé. Ouais, lui, je l'ai aidé. Non, ça ne vient pas de toi. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez compris cette notion de volonté, de vouloir suivre le Saint-Esprit? Alors on a parlé, je vais conclure et puis on va prier. On a parlé de cette notion de Christ qui est avec nous. Il est avec toi avant même, Saint-Esprit qui est avec toi avant même que tu n'aies donné ta vie à Jésus. Avant même, il commençait déjà à te parler. Le Saint-Esprit en toi, tu acceptes Christ, Christ vient vivre en toi, l'Esprit de Christ vit en toi. Les fruits du Saint-Esprit se manifestent. Et ça, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Après, dans Actes 2, il est écrit, « Maintenant, vous allez aller à Jérusalem. Et à Jérusalem, vous allez attendre une puissance. Elle va venir où ? Elle ne va pas venir en moi. Elle va venir sur vous. » Ce qui émane de toi, c'est les fruits. Mais ce qui vient sur toi, qui te permet de manifester la gloire de Dieu dans des situations concrètes, c'est la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il vient, il te couvre de son onction. Et là, comme toi, tu es un chrétien solide, mature, tu es un fils de Dieu, que ton âme, elle est renouvelée par le renouvellement de l'intelligence, et que tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin d'une puissance, tu te remets en question, là où tu as des craintes, où tu as des peurs, tu dis, non, c'est pas toi, Seigneur, j'y vais, j'ai besoin de ta puissance, Saint-Esprit, il vient, c'est une promesse, et tu vois sa gloire. Mais nous, on est tellement compliqués parfois. On complique tout ça. C'est juste, Saint-Esprit, viens, j'ai besoin de ta puissance. Et là, tu es revêtu d'une puissance. Et les 120, ils étaient là. Et moi, je trouve ça beau que la première fois où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, ce ne soit pas passé juste avec Pierre, avec Paul, avec Jean. Non, ça s'est passé avec 120 personnes. Ils étaient ensemble. Et là, il y a le feu qui est tombé. Et en fait, il a aligné tout le monde. Il a mis tout le monde d'accord. Il a dit, vous les 120, vous avez compris, vous avez connu. Maintenant, vous allez prier pour les autres. Ils vont recevoir cette puissance. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aligne. Au-delà de ta doctrine, au-delà de ta religion, au-delà de tout ce que les hommes ont rajouté. On a besoin de ce renouvellement en tant qu'Église. Si on veut impacter, parce que ça nous met d'accord. Parce que très vite, on laisse des pensées. Mais le Saint-Esprit vient, il est pur, il consume. Ça va ?